Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonjour à tous et bienvenue dans Amour, le podcast qui fait parler les femmes sur leur rapport à l'amour et leurs histoires d'amour. Pour ce premier épisode de l'année, j'ai eu la chance de rencontrer Anna. Elle parle de sa toute première histoire d'amour qui a duré 12 ans avec son ex-compagne avec qui elle a grandi, de l'espoir que ça dure. Elle parle de leur séparation après le confinement et son besoin de retrouver une certaine liberté, d'être honnête avec soi-même et avec l'autre, et d'être en phase avec ses besoins. Elle raconte aussi sa rencontre avec sa compagne actuelle, une femme qui a 30 ans de plus qu'elle. Elle parle des débuts de leur relation, de l'écart d'âge, de désir, des projets qu'elles ont ensemble et de l'envie de vivre à fond le présent. Merci beaucoup à Anna pour son témoignage. Si vous souhaitez participer, vous pouvez m'envoyer un mail à lea.bandier@gmail.com avec amour en objet. J'ai reçu beaucoup de mails pendant les vacances et j'essaye de répondre au maximum à tout le monde. Si l'épisode vous plaît ou les épisodes vous plaisent en général, vous pouvez mettre des petites étoiles ou des commentaires sur Apple Podcasts et Spotify, ça me ferait bien plaisir. Je vous laisse avec notre échange, bonne écoute.
Ah super,
est-ce que c'est bien comme
ça? Je t'entends très bien.
Ok d'accord.
Est-ce que t'es prête Anna?
Je vais pas bouger. Oh, oui, je suis prête.
Oh, tu peux bouger un petit peu. Si jamais de toute façon je t'entends moins ou quoi, je te fais un signe.
Ouais.
Je te fais un... Voilà, très bien.
Ok,
est-ce qu'on est prête? C'est bon?
Oui. Mm-hmm. Alors, je suis avec Anna aujourd'hui. Salut Anna.
Salut.
Je suis très contente d'être recevoir et très contente de rencontrer une autre Anna. Parce qu'une de mes meilleures amies s'appelle Anna comme toi, H-A-2-N-A-H, et c'est assez rare.
C'est vrai, c'est rare, surtout en France.
Oui, et j'ai vu ton mail, je me suis dit, tiens, dingue, c'est elle qui veut participer. Non, pas du tout.
Tu viens, ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as par exemple? Alors, j'ai 33 ans,
ouais.
Je suis d'origine allemande et je vis en France depuis 14 ans à peu près. Et je suis dans la vie scénographe, constructrice de décors.
Trop bien.
Voilà, de formation, formation de plasticienne et d'ébéniste.
Et ça veut dire que tu bosses sur quoi? Quel style
sur
de projet?
Théâtre.
Sur le théâtre?
Ouais.
Ok.
Ouais. Décors de théâtre et une création de spectacle aussi que je porte en ce moment.
Trop bien.
Dans un collectif.
Et comment tu commences? Enfin, comment débute ta carrière de scénographe?
Alors, j'ai fait l'école des beaux-arts.
Okay.
Donc, sculpture, installation, vraiment un rapport à la matière. Assez importante et à l'espace.
D'accord.
Et donc, ça s'est resté. Après, j'avais envie d'être plus technique, d'apprendre plus de comment travailler le bois. J'ai beaucoup aimé le bois et donc j'ai fait un CAP d'ébéniste après.
Putain, trop stylé.
Voilà.
Okay.
Ouais, ouais. Et c'est un peu le mélange des deux. J'ai toujours aimé le théâtre. Je suis toujours allée voir les pièces. Ma mère avait une copine qui est comédienne et donc je me souviens d'être dans les coulisses, dans les fringues de stock de costumes. Et ça, c'est vraiment des souvenirs qui m'ont beaucoup accompagnée, en fait, tout le long de...
T'as connu ça petite et puis...
De ma vie.
T'en fais ton métier.
C'est ça. J'ai pas grandi avec ça, mais c'était un univers qui m'a attirée.
Ouais, c'est ça.
Ouais, qui m'a toujours attirée.
Et alors, pourquoi t'es arrivée en France?
Qu'est-ce qui t'a plu? Tu parles très bien français quand t'as...
Je peux pas dire Paris et Edith Piaf, mais...
Mais c'était un peu ça.
Ah ouais?
Ouais, bah, j'ai Sartre, Simone de Beauvoir, tout ça, j'ai commencé à lire très tôt, au lycée.
Ouais. Mmh.
Des auteurs français, autrices françaises, et la musique, la langue, tout ça, quoi. J'ai un peu fantasmé...
Trop bien.
Et t'es la déçu. France.
T'es déçu du coup quand tu dis fantasmé, tu sais, le retour à la réalité. Comment
ça s'est passé? T'es arrivée en France pourquoi? Tes études il y a 14 ans?
Oui, après le bac, je me suis tirée de la campagne où j'ai grandi.
Okay.
Et j'ai fait un stage justement dans un théâtre à Lyon.
Okay.
Et Lyon, c'était vivre toute seule à Lyon à 19 ans. Enfin, c'était génial.
C'est...
Quoi. C'était super.
Et c'est une chouette ville en plus.
Oui, j'ai toujours... Lyon est toujours un peu dans mon... Dans mon cœur, même si j'ai pas vécu là-bas depuis ces 3 mois de stage. Voilà. Et
t'avais étudié, j'imagine, le français quand même en Allemagne?
Au lycée, j'ai appris au collège, lycée, le français.
J'ai fait allemand, moi aussi, LV1.
C'est vrai.
Première, j'ai eu 18 au bac, figure-toi.
Ah, super. Il te restait. si, j'en suis sûre. Tous les Français, toutes les Françaises me disent oh, « je suis trop nulle en français, mais en allemand, que... je suis trop nulle en anglais. »
Sauf si tu vas en Allemagne où tu as des potes allemands, mais j'ai pas du tout eu l'occasion de parler allemand depuis tout ce temps. Et je pense que je peux comprendre, mais parler et tenir une discussion avec toi, là, à part te dire « je sais faire du roller, je m'agrole chou la au fun », comme ça. C'est un truc qui m'a marqué parce que ma sœur faisait espagnol et bref, on s'en fiche, là, je parle trop dans les détails. Mais donc, du coup, on parlait de toi, t'as appris le français au lycée.
Oui.
Et ça t'a plu, t'es arrivée en France, t'es arrivée à Lyon et t'as continué tes études en France.
Dijon, après.
À Dijon,
oui, c'est ça.
Ça a plu, Dijon.
Dijon, c'est mignon. Après, je suis peut-être restée un peu trop longtemps.
Ouais, c'est petit quand même. Je connais pas Dijon.
Voilà. Okay. Ouais. Bah, j'avais un Erasmus, une coupure Erasmus à l'étranger en Islande, donc ça m'a fait quand même une petite.
Ça me fait rire parce que j'ai le copain d'une copine qui a fait son Erasmus, qui est italien, qui a fait son Erasmus à Dijon, justement.
Ah oui, ok.
Tu vois, et assez étonnant d'aller à Dijon.
C'est vrai.
Tu vois,
c'est vrai.
Tu t'attends à d'autres villes en France, mais bref.
Non, j'ai rencontré plusieurs personnes qui sont venues exprès à Dijon.
Ok.
Parce que l'école est chouette, en fait.
Et l'école, c'était les Beaux-Arts ?
Oui.
Ok, trop bien.
Oui.
Ok, alors, je reprends mes esprits. Anna, on est là aujourd'hui pour parler d'amour. Il faut bien que tu parles un peu plus proche. Voilà,
oui,
c'est très bien.
Okay.
Tu m'as envoyé un mail que j'ai beaucoup aimé quand je t'ai lu. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant et j'entends pas d'histoire comme ça. Donc, j'ai eu envie de te rencontrer et que tu m'en parles. Pour commencer, je veux bien que tu me parles de ton rapport à l'amour actuel en ce moment.
En ce moment... C'est un sujet qui est présent dans ma vie. Je suis amoureuse en ce moment.
Ouais.
Et je trouve que c'est très... Enfin, l'amour en général est important dans la vie, je pense, parce que ça, c'est un moteur, c'est un vecteur de beaucoup d'émotions. Ça nous met face à nous-mêmes aussi.
Ouais.
Et puis, de grandir et d'évoluer avec quelqu'un ou face à quelqu'un ou... C'est assez génial. J'aime quand c'est en mouvement.
Est-ce que tu peux me parler peut-être de ton passé amoureux de ces dernières années ? Quelles étaient tes relations amoureuses ?
Oui, alors j'ai eu une très longue relation amoureuse. On s'est rencontrés très jeunes. J'avais 18 ans.
Ouais.
Elle aussi, elle en avait 20.
Ok.
Et donc on était amis, très proches. Et puis ça a évolué, et on est tombé amoureuse et on est resté ensemble 12 ans.
12 ans, d'accord.
Ouais. Et donc,
jusqu'à tes 30 ans.
Voilà, ouais, okay. C'est ça.
Comment ça s'est passé, ces 12 ans d'amour ?
C'était...
Parce que c'est long, c'est un peu ton premier amour important, quoi, 18 ans.
Oui, oui, complètement, complètement, ouais. Et toujours dans cette optique, dans cet espoir que ça va durer.
Bah évidemment, plus ça dure, plus ça va durer.
Ouais, c'est ça, c'est ça.
Ouais.
C'est ce que je pensais pendant longtemps.
Bah, oui.
C'est ce que j'ai espéré pendant longtemps.
Ouais.
Et elle aussi. Et puis, ce qui est particulier avec le premier amour, c'est qu'on on grandit ensemble, dans le sens, on devient adulte ensemble.
Ouais.
Et on se construit.
Il y a tout à construire ensemble.
Ouais. Et t'es pas déjà une personne adulte terminée. Bon, jamais, on n'est jamais.
Oui.
On n'est jamais terminé, heureusement. Mais oui, donc on a l'espoir d'avancer dans le même sens,
ouais.
En même temps, dans la même direction.
C'est compliqué.
Et c'est compliqué.
Enfin, ça peut ne pas être réel, quoi.
Voilà, voilà. Et c'est jusqu'au moment où on se rend compte qu'on ne va pas dans la même direction.
Ouais.
On n'a plus les mêmes envies, plus les mêmes besoins.
Ça, c'est quelque chose qui a été commun chez vous deux, ou c'était plus l'une qui partait dans un sens que l'autre, enfin, comment ça s'est passé finalement, cette fin d'histoire, quoi.
La fin, c'était... Je peux donner un exemple qui s'est... En fait, on s'est séparés un mois après la fin du confinement. De mon côté, en fait, j'ai rencontré quelqu'un.
Ouais. Quand tu étais encore avec
elle. J'étais encore en couple. Ouais. Et... C'était un peu un coup de foudre, on va dire. Et on commençait une histoire. Avec mon ex, on s'était dit, on essaye la relation ouverte.
Tu lui en as parlé, du coup,
oui,
à ce moment-là, ok.
Oui.
Vous avez...
On en a déjà parlé avant que je rencontre cette personne.
Ouais.
Donc, la relation ouverte, c'était déjà un sujet dont on parlait beaucoup parce que, justement, aussi au niveau sexe, on n'avait plus les mêmes envies, plus les mêmes besoins. Ça veut dire, elle n'en avait pas, moi j'en avais. Et donc, on s'est dit, OK, on tente ça.
D'accord.
Et mais je pense que je ne suis pas du tout faite pour ça. Ouais. Et elle non plus, elle n'était pas faite pour ça.
Mais vous avez quand même essayé.
Bah, quand j'ai rencontré cette personne, on s'est dit, OK, c'est location. Elle n'habite pas ici. On peut se voir de temps en temps. Et sinon, je reste, je continue la relation avec ma compagne de l'époque. Et on va voir ce que ça donne. Peut-être que chacun trouve son compte. Mais c'était tout l'inverse. Personne n'y trouvait vraiment son compte. Et je me souviens, un peu avant le confinement, en mars 2020, j'ai dit à une copine, le plus difficile, ou ce dont j'ai le plus peur, c'est que je vais devoir choisir. Et ma copine m'a regardée et m'a dit, je crois que tu as déjà, en fait, tu as déjà choisi. Ouais. J'ai dit, non, non. Tu te trompes, c'est pas vrai. Je vais pouvoir continuer ça comme ça.
Ouais.
Toute la vie, bien c'est sûr. Super.
Personne ne souffre dans l'histoire.
C'est ça, on se met les mains sur les oreilles, sur les yeux. Ouais. Non, j'ai jamais fait ça, de me mentir en fait.
Ouais.
Ça marche pas en fait.
Ce temps-là où vous avez essayé un peu le couple libre, ça a duré longtemps ?
Quelques mois.
Quand même, ouais.
Quelques mois, ouais. Ouais.
Okay.
Donc c'était entre octobre et... j'avais une expérience, on va dire, extra-conjugale avant.
Ok.
Mais ça n'a pas duré, ça n'a pas marché. Enfin, c'était pas... Donc, le sujet du couple libre était déjà sur le plateau depuis un moment.
D'accord.
Mais là, c'était vraiment concret. Enfin, ça devenait vraiment concret avec cette autre femme qui est rentrée dans ma vie.
Avec cette autre femme, du coup, tu parlais de choix, c'est-à-dire que soit tu quittais la personne avec qui tu étais, la femme avec qui tu étais, soit tu restais avec elle, mais avec la personne que tu... Oula,
j'arrive plus à m'exprimer. La personne que tu venais de rencontrer, donc tu voulais vivre une histoire d'amour avec elle.
Enfin, t'allais partir et te mettre plus ou moins en couple avec. C'était réfléchi comme ça ?
Bah, c'était pas vraiment réfléchi comme ça. Parce que cette personne-là, c'est mon amoureuse actuelle.
Ouais. Oui.
Mais depuis le début, on s'est jamais rien promis.
D'accord.
On ne s'est pas projeté aussi parce qu'on pensait que c'était quelque chose de très fort qu'on vivait, mais qui n'avait pas forcément d'avenir.
Ok. Et pourquoi tu pensais qu'il n'y avait pas d'avenir ? Vous pensiez qu'il n'y avait pas d'avenir ?
Parce qu'on a un écart d'âge assez important.
Ouais.
Ouais, je pense que ça, c'était le plus grand, quand même le plus grand frein pour toutes les deux. On s'est dit, qu'est-ce que ça pourrait donner ? Et puis, à ce moment-là, moi, j'étais encore en couple. Mmh. On ne vit pas dans la même ville. Il y avait plusieurs aspects comme ça qui faisaient qu'on s'imaginait une histoire très forte, mais qui pourrait s'arrêter à tout moment, en fait.
Un peu irréel dans l'idée, hors du temps.
Au début, on utilisait le terme saugrenu.
Ouais.
J'ai appris ce mot-là à ce moment-là.
Il est marrant ce mot en plus.
Ouais. Ouais. Je connaissais pas. Maintenant, ça fait partie de mon vocabulaire. Oui. Même si cette histoire, pour moi, me paraît de moins en moins saugrenue.
Oui.
Ouais.
Parce que là, ça fait 2 ans. Plus de 2 ans. Ok. On va revenir juste sur ce moment de séparation. Comment t'as vécu ce moment ? Qu'est-ce qui a déclenché aussi la rupture ? Parce qu'on parle de confinement, mais est-ce qu'il y a eu quelque chose en particulier, une prise de conscience ? Et comment tu l'as vécu, quoi, après 12 ans d'amour avec cette femme ?
Alors, la situation pendant le confinement, c'était que moi, on avait un bureau, enfin, une petite pièce dans notre appart. Et moi, j'allais travailler dans cette pièce. Ouais. Et je m'enfermais dans cette pièce, en fait. Je fermais la porte du bureau, je fermais la porte du couloir, je fermais la porte vers le salon. Et j'avais jamais fait ça avant, en fait. Et à un moment donné, ma compagne m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais, en fait ? Pourquoi tu fermes toutes les portes entre nous ? Et ça, c'était tellement métaphorique, au final. Donc, tu parles de prise de conscience. Oui, c'était cette prise de conscience que j'avais envie d'être ailleurs, d'être avec l'autre.
Ben oui.
Et que j'avais l'impression que ce que je vivais là, c'était plus ma vie. C'était plus ma vie. Et même si j'aimais beaucoup,
bien sûr,
j'aimais énormément mon ex, et je pense que je l'aime toujours parce que cet amour-là, ce premier amour, c'est très, très profond.
Ouais.
Ouais. Et ce qui nous lie à notre premier amour, c'est particulier, c'est singulier, c'est très fort. Donc c'était pour moi aussi un deuil de prendre cette décision-là.
Il y a tout ce que ça implique parce que vous connaissez assez jeune et puis finalement vous vivez ensemble, vous avez un appartement ensemble. Il y a tout ça dans la séparation aussi qui est compliqué, en plus de tout ce qui se passe dans la tête, quoi.
Ouais,
finalement.
Ouais, ouais, tout à fait.
Toutes ces démarches, qui va garder l'appart, qui s'en va.
Ouais, tout à fait. Et moi je pensais vivre une vie quand même assez, on va dire, assez libre, avec des choix assez indépendants. Mais là, maintenant, je me rends compte, rétrospectivement, que j'étais quand même aussi dans un schéma, on va dire, de relation assez classique, traditionnelle. Ouais. Donc, monogame, même si la monogamie, ça me va toujours, j'ai absolument rien contre ça. Mais aussi, on vit ensemble, on se projette ensemble, peut-être acheter quelque chose, tous ces... Tous ces projets, on n'avait jamais eu de projet d'enfant, ça par contre.
Okay.
Là, j'ai toujours été, ça ne m'a jamais intéressé.
D'accord.
Mais maintenant, je me rends compte à quel point on peut être, libre en fait dans ses choix et dans sa construction d'une relation. Parce qu'il y a énormément de schémas au-delà de on s'installe ensemble, on va acheter un truc à la campagne ensemble, etc.
Ça, c'est quelque chose duquel tu veux sortir de schéma classique, ou tu vois que ça peut être différent en étant avec quelqu'un?
Ouais, je pense qu'il faut vraiment s'écouter et être en phase avec ses besoins. Ouais. Et donc aussi être... prête à se détacher des schémas traditionnels, si ça correspond pas ou si c'est pas compatible avec des choix professionnels, des choix amoureux, et oser autre chose.
Ouais.
Maintenant, je vis dans une colocation, on est cinq, dans une maison avec un jardin, et c'est très chouette.
Ouais.
Et le chat.
Ouais.
Et
c'est quelque chose que tu n'aurais pas imaginé il y a quelques années.
Voilà, j'ai jamais vécu dans une coloc. Ouais. Et pour moi, c'était soit habiter seul, soit du coup en couple depuis longtemps. De me dire, ok, à 30, du coup, j'en avais 31 ans.
Ce que j'allais te dire, parce que coloc, tu peux le faire jeune, étudiant, voilà, etc. Mais c'est vrai que c'est un peu moins commun.
C'est ça. Par rapport à, je ne sais pas, aux normes, si j'utilise ce terme.
Ce qui est débile, parce que vivre en communauté, c'est quand même sympa et ça t'amène plein de choses.
Ouais. À moi, ça m'a fait évoluer énormément de vivre en colocation avec des gens adultes, responsables. Donc, ce n'est pas une coloc d'étudiants.
Ouais, ouais.
On est tous dans la vie active et des échanges incroyables. Et en fait, tout ce qui s'est passé dans ma vie, et au niveau professionnel, et au niveau amoureux, et au niveau d'habitation, de social, c'est de l'ordre d'une ouverture. Je le ressens vraiment comme ça depuis cette décision-là de quitter.
Et c'est ce que tu recherchais?
Quitter ma vie d'avant. Ouais.
Ouais.
Ouais. Ouais, je me sentais assez prisonnière, finalement.
Est-ce que tu penses que c'est les années aussi qui ont fait ça? De passer, tu vois, d'avoir 12 ans de relation derrière toi, qui t'ont fait sentir prisonnière, c'est une question d'années ou pas tant, finalement?
Non, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense que c'est... c'est une question d'être à l'écoute de soi-même et puis un respect de l'autre aussi, de ses besoins de l'autre, enfin ouais. les besoins de l'autre. Et ouais, je pense pas que c'est la durée en fait. Ouais, c'est plutôt la.
Je pense aussi.
Ouais. La dynamique, c'est la dynamique aussi. La dynamique qu'on a à deux. S'il y en a un qui a besoin de sécurité, de construire un, je veux dire, un bunker contre le monde et cette idée de nous deux contre le monde. Ouais. Et l'autre, ben, du coup, moi, qui n'est pas du tout là-dedans, en fait, et qui découvre ce que c'est de prêter sa chambre à des amis d'amis ouais. quand je ne suis pas là. Et ces choses-là que j'adore, mais ouais. que je ne me serais jamais permis avant, parce qu'il y avait cette méfiance, cette peur de la part de ma compagne.
Ok. Tu disais que tu as eu le coup de foudre pour la personne, pour la femme avec qui tu es aujourd'hui, comme un coup de foudre. Comment tu définis ça? Ça veut dire quoi pour toi, coup de foudre?
Elle m'a attirée depuis le premier moment où je l'ai vue.
Ouais.
Mais comme je partais souvent du principe que ces attirances-là ne sont pas forcément réciproques.
Pourquoi ?
Que je peux avoir... Ça m'est déjà arrivé d'avoir des attirances pour des femmes aussi plus âgées, pour des femmes hétéros, pour bah, tous ces freins qui peuvent être là et qui peuvent... mener aussi à une frustration et donc c'était aussi une manière pour moi et en fait le fait d'être dans cette relation un peu stagnante un peu fermée que j'ai eue souvent je me projetais ou j'avais des attirances vers des femmes inatteignables qui réellement il pouvait rien se passer concrètement
ouais.
Et je pense maintenant aussi, c'était une façon de projeter protéger mon couple.
Oui, parce que finalement, ça n'allait pas se faire, la personne voilà. n'était pas disponible.
Donc pour voilà. moi, c'était une espèce d'échappatoire,
ouais.
Sans mettre réellement en danger mon couple.
Bien sûr.
Mais ce qui menait à une grande souffrance quand même, pour moi. Ouais. Parce que d'avoir des attirances et désirer à sens unique... C'est sur la durée, c'est douloureux. Et maintenir en vie un couple qui marche plus très bien et en même temps renoncer à d'autres types de rencontres pour que le couple marche,
ouais.
qui marche plus.
Oui. Je vois le truc, ouais.
C'est pas forcément la meilleure technique pour s'épanouir, en fait, du tout. Oui. Et donc, c'est marrant parce que avant de rencontrer donc mon amoureuse actuelle,
ouais.
je me suis dit j'arrête ce schéma de projection de désir unilatéral et
oui, tu en avais conscience et tu t'es dit ok ouais, c'est fini, ouais, je veux plus
ouais.
ça.
Ouais. J'avais même fait un travail aussi avec une psy parce ouais. que ça m'a vraiment fait souffrir de retomber dans ces schémas-là. Et je voulais comprendre et changer quoi, faire changer ça. Et donc j'étais vraiment consciente de ça ouais. et je me suis dit ok, la prochaine fois que je croise quelqu'un qui me plaît, je vais être directe et je vais lui dire, enfin en fonction de comment ça évolue. Et puis voilà, c'est oui ou non, mais oui. je vais pas rester là-dessus ouais. et laisser ça
cogiter pendant longtemps.
Voilà,
d'accord.
C'est ça.
Donc tu lui as dit comment ça s'est passé? Tu l'as vu et tu as été attirée par elle?
C'est ça. On faisait un workshop en fait autour de la scéno toutes okay. les deux, la scénographie. Voilà, on s'est rencontrés là-bas en groupe et un mois après, il fallait retourner chercher les décors qu'on avait construits ou les éléments de décor. Elle m'a proposé de m'héberger.
Ouais.
Et donc, je savais que ce week-end-là, un mois après, allait arriver. Mm-hmm. Et je savais que c'était ma seule chance.
Ouais, ouais.
Donc, je me suis préparée dans la voiture pendant 5 heures. OK, comment je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais ouais. lui dire? Et en face à face et pas par message ouais. et pas par... Quand j'étais ado, je fais une petite parenthèse, quand j'étais ado, j'écrivais des lettres anonymes.
Ok. Des lettres d'amour
à la, ouais. À la nana dont j'étais amoureuse.
Ouais. Tu lui as jamais dit ?
Non.
C'est moi. Tu savais qu'elle lisait ?
Je savais qu'elle lisait, ouais.
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 Parce que vous étiez amies ou...
Oui, on était dans le même, d'accord. Dans le même lycée, ouais.
Et tu lui as jamais dit ?
Bah, en fait, je lui ai dit, si, je lui ai dit, je lui ai dit l'an dernier.
Et alors ?
Je lui ai dit l'an dernier.
Qu'est-ce qu'elle a dit ? Je savais.
Elle a pas dit je savais.
Ouais.
Mais elle a dit qu'elle a toujours une attirance pour moi très forte, pas amoureuse.
Ouais.
Voilà. Et platonique. Et on a une très belle amitié maintenant.
Ah bah c'est trop bien.
Ouais.
C'est cool.
Ouais.
C'est cool de l'avoir recontacté.
Ouais.
Ils ont parlé, quoi.
Ouais. On a toujours gardé le contact.
Ouais.
Mais j'ai toujours eu trop peur de lui dire.
Ouais.
Et là, je pense que c'est venu aussi avec, avec ce changement dans ma vie, cette grande décision.
Mais t'avais peur, je reviens juste sur ça, t'avais peur au lycée, et peut-être même avant, parce que justement, t'avais peur de, que la personne en face ne soit pas intéressée, ne soit pas disponible, et de ton orientation sexuelle aussi,
oui.
Ton orientation, ouais, que ce soit un problème du côté de la personne en face.
Ouais, et puis que ça mettrait fin aussi à l'amitié.
Ouais.
Oui.
C'est quelque chose qui t'est arrivé ?
Ça m'est arrivé plus tard. Okay. Ça m'est arrivé plus tard, ouais.
Pas
que quelqu'un a vraiment mis des distances, a dit on peut plus, maintenant on peut plus s'écrire, on peut plus se voir.
Ok.
Ouais. Mais ça fait partie de. Je pense même en tant que hétéro, enfin c'est.
Bien sûr.
C'est pareil, un rejet.
Ouais.
Un rejet, c'est pas simple. Et puis si on. En même temps, c'est plus chargé, je pense, quand c'est. Quand tu t'y attends pas, que. L'autre personne qui m'a dit stop, c'est fini l'amitié ou les échanges, parce qu'on s'écrivait pas mal de lettres et tout ça, on avait un échange épistolaire et aussi téléphonique et on se voyait de temps en temps, quoi. Elle ne s'attendait pas à ce que je sois. À ce qu'elle me plaise. Et je pense que ça l'a déstabilisée.
Ouais.
En même temps, elle a nourri aussi cette. Enfin, c'était pas que moi qui la contactais tout le temps.
Oui, oui.
Ça, c'était réciproque. Mais voilà, c'était pas dans la même. En fait, j'ai eu plusieurs moments comme ça de déception ou de peut-être aussi mauvais, je sais pas, mauvais choix. Ouais.
Ok. Donc, tu es arrivée, tu t'es préparée pendant 4-5 heures dans la voiture.
Oui.
Réfléchir à ce que tu allais dire.
Oui.
Comment ça s'est passé alors ?
J'étais sûre que je voulais pas lui dire. Je voudrais la draguer pour.
Ouais.
Je voudrais la draguer pour plutôt voir ce qui est possible.
Trop mignon comment tu le dis. Je voulais la draguer.
J'étais en relation pendant 8 ans, j'avais 12 ans, je savais pas comment draguer. Je savais pas. J'ai pas beaucoup expérimenté la drague. Pour moi, c'était un.
Mais tout est nouveau, quoi. C'est difficile.
C'est difficile.
C'est franchement difficile.
Ouais. En même temps, je voulais pas la draguer dans l'optique de je me mets avec. C'était pas chargé comme ça. C'était. Je savais qu'elle était aussi intéressée par les femmes. Et donc, je me suis dit, OK, là, il y avait cette ouverture-là, déjà, qui était plutôt. Qui donnait espoir.
Bah oui.
Ouais. Et du coup, je lui ai dit que j'avais envie de faire l'amour avec elle.
OK.
Et
quand t'es arrivée direct,
comme ça. Pas tout de suite, pas tout de suite.
Bonjour, merci de m'accueillir, j'aimerais faire l'amour avec vous.
Je sais pas, peut-être que ça aurait marché aussi. Mais...
Pourquoi pas,
hein. On sait jamais. Non, je pense qu'il fallait un peu de temps quand même. Et que je dépasse mes peurs.
Ouais.
Et donc je lui ai dit, on faisait une balade sur les quais de la Seine. C'est marrant parce que ma dernière relation, donc celle de 12 ans d'avant, elle commençait aussi à Paris.
Ah ouais.
Ouais. Okay. c'est un... alors que j'ai jamais habité à Paris. Ouais. Mon ex, elle était allemande. Enfin, c'était. Il y a un truc quand même entre moi et, et Paris. C'est assez intéressant. En tout cas, oui, on était à Paris et je lui ai dit on se baladait sur les quais de la Seine et puis je lui ai dit et elle m'a répondu. Elle m'a pas tout de suite répondu. on continue à marcher et elle me regarde et elle dit oh, j'ai des frissons partout. Et là, c'était trop bien. Et
trop
après,
bien.
Ouais. Et après, on n'en parlait plus, on continuait à marcher, on parlait d'autres choses, mais il y avait quelque chose de, qui s'est ouvert, une possibilité. Et c'était, c'était énorme. Et donc, on a passé un très beau week-end. Et à partir de ce moment-là, on voulait se revoir.
Ouais.
Et même si, toutes les deux, on était surprises, flashées par le fait... on était flashées de voir à quel point ça matchait.
Mm.
Et à quel point ça pouvait être simple, dynamique... intense, c'était tout ce qui m'a manqué tout ce qui m'a manqué avant et donc on se voyait à peu près une fois par mois si on a réussi toutes les quelques semaines dans des Airbnb, des lieux différents à chaque fois
dans des j'allais dire pays parce que là ça aurait été un sacré budget
mais dans des villes différentes ça
ouais. Ah trop bien sympa putain
enfin comme moi j'habite à l'est et elle habite ici à Paris à Saint-Denis on a regardé la carte on a dit ok qu'est-ce qui est à peu près au milieu entre les deux
ouais, trop marrant
ouais et c'était notre espace-temps en dehors de tout, en dehors de nos deux vies.
Oui, c'est ça, parce que finalement, t'étais pas dans sa vie à Paris, elle était pas dans ta vie chez toi.
Ouais.
Pas avec, je sais pas, ton entourage, tes amis, ta famille et tout, c'était une petite bulle.
Ex.
Oui, ton ex, du coup. C'est vrai,
aussi.
J'avais un peu oublié.
Le détail.
Oui, donc c'était comme une bulle entre toutes les deux, quoi.
Oui, exactement.
Mais ça a duré longtemps.
Donc, ça a duré octobre, novembre, décembre, janvier. En janvier, j'étais à Copenhague pour 7 semaines pour le travail.
Okay.
Et donc, j'avais un appart là-bas. Et elle est venue me rendre visite.
Ouais.
Donc, encore une autre ville en dehors de nos deux vies.
Ouais, c'est marrant.
Ouais. Et puis, je suis rentrée début mars. Et une semaine après, on était confinés. Donc, ça a duré 6 mois à peu près.
Fin du confinement, du coup, tu quittes ton ex-compagne. Est-ce que tu te diriges directement vers elle? Est-ce qu'il te faut du temps un petit peu pour souffler après tout ça?
J'ai pas vraiment pris mon temps.
Ouais. T'en avais envie, de toute façon.
Ouais, j'en avais envie.
Ouais.
J'en avais envie. Et en fait, du fait que quand c'est jamais projeté ou qu'on s'est jamais dit quand tu seras libre, on se mettra en couple. Oui. On vivait extrêmement dans le présent et dans le... chaque fois qu'on se voit, on ne sait pas si on va se revoir.
Ouais, d'accord.
Et donc, j'avais envie de le vivre à fond, en fait.
Ouais.
Et elle aussi, en fait. On ne voulait pas perdre du temps. Si c'est étrange de dire ça pour une relation, mais en même temps, c'était vraiment ce qu'on ressentait.
Oui. Vous étiez trouvés...
Ouais.
Fallait y aller, quoi.
Ouais.
Sans perdre du temps.
Ouais, vraiment, ouais. Vraiment. Oui, je pense le fait qu'elle soit plus âgée que moi joue aussi là-dedans.
Bien sûr, ouais.
Il
y a une grande différence d'âge.
Ouais, moi j'ai 33 ans et elle en a 64.
Ouais. 30
ans. 31 ans d'écart, ouais.
Ça joue en quoi, pour toi? Par rapport au temps?
Parfois, elle me dit un jour, je serai trop vieille pour toi.
Mmh.
Je serai trop vieille pour que tu puisses m'aimer. Mmh. Et ça me déchire de l'entendre dire ça. Parce que, en quoi il y a une... C'est comme s'il y avait une date de péremption chez l'humain, alors que non, en fait, il n'y a pas de date de péremption. Et pour elle, c'est assez surprenant, je pense, de moins en moins, mais c'est surprenant que moi, je puisse la désirer. alors, ouais. que, alors qu'elle n'a pas mon âge. Alors que... Et en fait, toutes ces notions-là de quel peut être un critère pour aimer l'autre ouais. et pour désirer l'autre, tous ces critères-là, pour moi, c'est, il faut vraiment les remettre en question. Il faut ouais. vraiment les éclater, en fait. Mmh. Parce que moi, je la désire et je l'aime pour tout ce qu'elle est. Son âge en fait partie, mais c'est pas, ça peut pas être un critère, en tout cas pas pour moi.
Ouais.
Je pense que ça peut être un critère si on est dans une relation justement plus, je vais dire plus traditionnelle,
oui.
où on projette des enfants ensemble,
oui.
Voilà, la construction d'une maison ensemble.
Ouais.
Là, l'âge doit jouer plus, évidemment. Mais on commence à se projeter toutes les deux sur, on va dire, du moyen terme.
C'est-à-dire
les mois qui viennent.
Ouais.
Et en fait, ça marche super bien pour nous. Parce que y a pas ces, on ne regarde pas où on sera dans 20 ans.
Ouais.
Parce que ça n'a... déjà, dans n'importe quel type de relation, tu sais pas où tu en seras dans 20 ans. Donc, des projets de long terme comme ça, pour moi, n'ont jamais vraiment eu de sens. Mais là, encore moins, parce qu'on a tellement envie de vivre le présent ouais. et de vivre ce temps-là qui est super, en fait, pour nous. Et... Des projets, c'est des projets, on a un projet professionnel aussi ensemble, on monte un spectacle.
Très bien.
Ouais. Par la matière de départ, c'est nos échanges par SMS.
Ok, génial.
Ouais.
Très bien.
Les trois premiers mois
ouais.
D'SMS. Et on a pris ça comme matière et après on l'a retravaillé, on a imprimé, découpé, réassemblé, un premier travail de texte et de mise à distance aussi, parce que dans ce projet, on veut pas parler de nous,
oui.
on veut parler d'amour, on veut oui. parler de la communication à travers les textos. Qu'est-ce que ça engendre, cette façon de communiquer peut-être court et synthétique et en même temps qui transporte des messages très forts, où tu peux exprimer des sentiments très profonds qui est au cœur de notre communication aujourd'hui, cette présence et absence à la fois, où t'attends les réponses, et il n'y a pas de réponse, et tu dis, qu'est-ce qu'elle fait ?
Comment ça peut empiéter sur toute une journée, par exemple,
oui.
dans l'attente d'un message.
Ouais.
C'est fou quand même. Quand tu vois, je réfléchis à, je sais pas, à mes parents, les grands-parents, machin, il n'y avait pas ça, cet échange-là. Déjà dans la vie au quotidien, tu vois, genre, c'est étonnant, mais les relations étaient quand même différentes. Enfin, tu vois, je sais pas, je trouve ça assez fou quand je pense à ça, où ça n'a pas existé, tellement c'est dans notre quotidien, à nous, dans la construction des relations, quelles qu'elles soient, même en amitié, quoi. Cette présence-là, omniprésence des messages, des vocaux, de tout ça.
Même si on vit dans la même ville ou dans la même, au même endroit, on s'envoie quand même ces messages-là.
Ouais. Et l'importance, tu vois, du message de bonne nuit, de bien rentrer,
ouais.
de, je sais pas,
ouais,
tout,
ouais.
tout un truc. Ouais.
Oui, je pense que la construction mentale d'une relation a évolué ou a changé aussi avec ce type de communication. Je me suis dit aussi, ouais, à l'époque, les relations amoureuses... du coup, on a beaucoup lu aussi des lettres d'amour de Flaubert, de... il y en a plein, quoi. Et ils envoient une lettre et puis ils attendent une réponse pendant un mois. Et en fait, c'est pendant un mois, tu ne sais pas si l'autre l'a reçue, si l'autre l'a lu, si l'autre a déjà répondu, si l'autre a commencé à répondre ou pas, si l'autre l'a déjà envoyée et la lettre s'est perdue quelque part en cours de route.
Et nous, là, on pleure pour un vu pendant une heure.
C'est ça, c'est exactement ça.
Réponds-moi, on ne répond pas, qu'est-ce que j'ai fait ?
Ouais. C'est exactement ça.
L'autre est juste occupé, il n'y a aucun problème, quoi, mais c'est marrant quand même.
Oui. C'est exactement ça, c'est de ça qu'on a envie de parler dans la pièce.
Ah, cool.
Parce qu'il y a deux protagonistes du coup sur le plateau,
okay.
mais qui ont cette relation à distance.
D'accord.
Et donc, on est au même endroit, ouais. mais séparés.
Ok.
Et donc, c'est un peu l'inverse de ce qui se passe réellement quand il y a une relation à distance. Tu n'es pas dans la même ville, mais c'est ton téléphone qui crée la connexion permanente.
Ouais, c'est marrant. Trop bien. Mm. Donc, vous avez ce projet.
On a ce projet, ouais. C'est du théâtre visuel. Il n'y a pas de paroles directement sur scène. Tous les textes sont préenregistrés. Il y a un grand travail de montage sonore. On travaille avec un musicien qui fait ce travail-là.
Tu me diras s'il y a des représentations à Paris, je vais en direct.
Ouais, avec plaisir, je te tiens au courant.
Est-ce que vous êtes sorties de votre bulle, toutes les deux, du coup, depuis ?
Ouais. ouais, on est sorties de notre bulle. Déjà, la bulle, elle a un peu éclaté avec ma séparation de ma compagne, parce qu'avant, c'était aussi un peu dans l'idée de se cacher. D'être anonyme, d'être invisible. L'idée de me cacher dans ma relation, ça m'a jamais vraiment plu.
Ça te gênait.
Ouais. Et parfois aussi, même avec mon ex, quand on marche dans la rue, tu vois, parfois, t'es pas sûr si c'est une bonne idée de se tenir la main, parce que c'est... un quartier un peu chaud, les gens qui traînent, où on s'est déjà fait cracher dessus, insulter. Donc ça existe toujours, l'homophobie. Et même ça, évidemment, quand je sens que ça peut vraiment être dangereux, j'y renonce, je ne suis pas démonstratif. Mais je n'ai pas envie de faire comme si on était juste des potes. Il y a un côté surréaliste. Dans le fait de se cacher. Et donc, on a commencé à en parler à notre entourage.
Comment a pris ton entourage ? Comment ton entourage a pris cette nouvelle ?
Surtout, ils ont vu que j'étais super amoureuse, que j'étais épanouie, que je commençais à faire plein de choses, que je me sentais plus en phase avec moi-même, quoi, à tous les niveaux. Et donc, c'était bien pour eux. Et je pense que certains étaient peut-être surpris.
Oui, parce que là, la surprise, ça peut être la différence d'âge. Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a dit ? Est-ce que tes proches t'en ont parlé ?
Oui, enfin, j'ai une copine qui a eu la réponse un peu... Ah, c'est une vieille ! Oui et non. Et alors, en fait. En fait, je sens aucun moment... J'ai l'impression qu'il n'y a aucun moment dans notre relation où l'âge a une importance, où le fait qu'on n'ait pas le même âge soit...
Un problème.
À aucun moment. Mais elle a eu sa vie, justement, de famille avant. Elle a des enfants qui sont grands. Moi, je n'ai jamais eu envie d'enfant. Donc là, il n'y a pas de...
Ça marche, quoi.
Ouais, complètement. Et on est vraiment dans la même dynamique, quoi, d'avoir envie de faire des choses, de décoller, de faire des nouvelles choses. Peut-être que ça dépend aussi du caractère, du caractère des personnes. Je connais des gens de mon âge qui dans leur tête, en ont déjà 80.
Bien sûr.
Tu dis, mais,
ils veulent une vie vieux qui est con, très différente. Tu peux être un vieux con à partir de 20 ans. Quoi.
L'attitude de... Et rester toute ta vie en plus.
T'es vraiment un vieux con au bout d'un moment, mais c'est vrai que tu l'étais depuis longtemps. Donc,
C'est exactement ça. Je pense que c'est un trait de caractère.
Bien sûr.
C'est comme être sociable ou être un vieux con. Cette envie, ou cette, pas une envie, mais cette conviction qu'avant, tout était mieux.
Ouais.
Et que ce n'est plus ce que c'était. Et que ça va de moins en moins bien, tout s'empire. Ça, c'est vraiment une attitude... je pense qu'il te fait vieillir prématurément et qui t'empêche d'être courageux aussi.
Oui, de t'ouvrir au monde, quoi.
Ouais.
Qui change, finalement.
Ouais.
Faut suivre.
Ouais, exactement.
Est-ce que pour elle, ça a été un sujet, cette différence d'âge dans son entourage, peut-être avec ses enfants, tu vois, sa famille, ses amis ?
Ça n'a pas été évident. Enfin, sa majorité à moi était vraiment, vraiment bien, super bien accueilli en fait. Bien. Ouais, ouais. Presque pour tout le monde.
Okay.
Voilà. Pour son fils, c'était pas évident.
Ouais.
C'était pas évident. Il lui fallait un peu de temps. Ouais. Il lui fallait un peu de temps pour digérer, mais il a l'air de l'avoir accepté. Et surtout qu'il voit sa mère
heureuse.
Ouais. Presque ça l'oblige de l'accepter. C'est pas... oui. Tu vois, y a pas, tu peux pas dire c'est n'importe quoi, ouais. Arrête ça, alors que
qu'elle
s'éclate. Et, ouais. Ouais. Et donc je pense que ça, c'est un jeune homme intelligent. Ouais. Ça a dû le pousser aussi à se dire que okay, maintenant, la vie de sa mère, c'est différent d'avant,
ouais.
Mais c'est toujours la même personne, et la même personne en plus heureuse,
ouais.
Peut-être qu'en étant seule, ou, voilà, donc c'est, je suis contente, je suis vraiment heureuse que ça ait été bien accepté,
bien sûr,
parce que quand même, c'est pas évident.
Ah oui, ça peut être très difficile.
Oui, complètement.
Donc là, vous vivez votre amour sereinement, au grand jour. Pas en cachette.
Pas en cachette.
En travaillant ensemble, en ayant ces projets-là ensemble.
C'est ça. On n'habite toujours pas ensemble.
Ouais.
Et je pense que ça, c'est super important. Ça nous fait un bien fou aussi d'avoir à chacune sa liberté, sa ville, son entourage.
Ouais.
Je ne me vois pas tout abandonner pour venir m'installer avec elle. Et elle, c'est pareil.
Ouais.
Et déjà, on travaille ensemble. Donc ça, faut aussi vraiment se préserver des moments... pour soi.
Ouais. C'est assez dingue quand même, si on revient sur toute ton histoire, tout ton parcours amoureux, d'avoir passé autant d'années avec une personne pour envoyer tout un peu balader et construire un nouveau parcours amoureux qui n'a rien à voir avec ce que tu as connu quand même, mais dans lequel t'es hyper heureuse. C'est assez courageux aussi quand même d'avoir pris cette décision, tu vois, c'est pas donné à tout le monde en fait. Enfin, je trouve que c'est courageux. Je sais pas si, peut-être que toi, tu évidemment, moi je suis d'un point de vue extérieur, toi c'était plus fort que toi, j'imagine, tu vois, à un moment donné, de faire ces choix-là et d'avoir de retrouver cette liberté-là que tu voulais.
Mm-hmm.
Mais de l'extérieur, c'est waouh, plein de, tu vois, énormément de changements quoi, dans ta vie.
Par moment, je me suis pas dit que c'est courageux, mais je me suis dit quand même que je m'enlève pas mal de sécurité.
C'est vrai.
À plusieurs niveaux. Et par moments, c'est un peu vertigineux.
Ouais.
Parce que du coup, j'avais plus cette relation à deux, où on payait le loyer à deux, où on prenait toutes les décisions à deux. Maintenant, j'achète une voiture, je l'achète toute seule, je décide toute seule. Je peux pas me reposer aussi financièrement sur une autre personne. Ça, c'est par exemple... ça, c'est une insécurité. C'est un peu la... pas le sacrifice, mais le... C'était inévitable pour le choix de la liberté de lâcher des sécurités.
Oui, bien sûr.
Ouais. Ouais. Et donc, pas être forcément dans une relation où on se dit dans 20 ans, on sera encore ensemble, être vieux ou vieille sur notre banc, je sais pas, à la retraite, en Bourgogne, je sais pas où. Mais d'être plus dans, ok, super, l'année prochaine, on va jouer. Et là, on va partir là, et là, on a une résidence là-bas, et là, on va voir tel ami. Enfin, être plus dans le court terme.
Ouais.
Ça enlève aussi une certaine sécurité, je pense, tes projets de long terme.
Oui, ça rassure.
Ça rassure.
Ça rassure sur les années à venir aussi, qui peuvent être effrayantes parfois, le temps qui passe, tout ça. D'avoir des projets que tu t'imagines ou que tu fantasmes un petit peu, c'est rassurant aussi.
Oui, c'est ça, en fait, le temps qui passe, pour nous, c'est un vrai moteur.
Ouais, oui.
D'y aller à fond.
À fond, quoi.
À fond, ouais.
Trop bien. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui est un peu dans une impasse et qui aimerait un peu faire tout balader, je te dis tout balader, c'est un grand résumé hein, de ce qu'on s'est dit, mais d'envoyer un peu tout valser comme ça pour se retrouver dans ses désirs les plus profonds, quoi.
Les amitiés.
Ouais.
Pour moi, c'était un énorme soutien. J'ai passé des heures et des heures au téléphone avec les amis avant de quitter mon ex. Et avant de prendre cette décision-là, que j'ai envie de vivre cet amour-là maintenant,
ouais.
Tout en, laissant partir énormément de choses qui m'étaient chères.
Bien sûr.
Les amis, en parler, en fait, verbaliser, être bien entouré.
Mm-hmm.
Parce que, oui, comme tu dis, c'est courageux dans le sens où tu lâches beaucoup de choses. Et si ça foire, faut que quelqu'un puisse te rattraper. Mm. Donc, c'est ça. Et puis, se dire que la construction, elle se fait avec les décisions qu'on prend tous les jours, en fait. Les décisions qu'on prend tous les jours, c'est pas une décision d'un moment, ok, on va faire ça, on va vivre comme ça.
Arrêter.
Ça va rester. Arrêter, ouais, voilà. Ouais. Arrêter un projet de vie ou une vision de vie, ouais. Et puis poursuivre ça. Non, c'est que chaque jour, ouais. Finalement, tu choisis la personne avec qui tu es, de nouveau.
Mmh.
Et de nouveau, et de nouveau. Et si tous les jours, c'est la même personne avec qui tu as envie d'être pour tes raisons, et pour tes raisons, c'est que c'est bien d'être avec cette personne.
Ouais.
Et donc se dire, ok, aujourd'hui, quelle décision je prends aujourd'hui pour être honnête avec moi-même et aussi honnête avec l'autre, parce que faire souffrir soi-même et l'autre, ça n'a aucun... ça marche pas.
Ouais.
Ouais. Être bien entouré, je pense, ça, c'est vraiment un conseil...
Est-ce qu'on a parlé de tout ce que tu voulais aborder comme sujet autour de l'amour et de ta relation? Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose?
Non, je pense pas.
C'était très bien.
Je pense pas.
Ouais.
C'était peut-être un peu décousu.
Pas du tout. Ah non, très clair, très bien et très intéressant. Mmh. Et je trouve ça important d'avoir ce genre de témoignage qui change un peu de l'ordinaire, tu vois, de schéma, de couple, d'histoire d'amour, de différence d'âge. C'est bien d'en parler. Donc, merci beaucoup de m'avoir envoyé ce mail.
Merci
d'être venu jusqu'à moi.
Merci de m'avoir accueilli.
Avec plaisir. J'espère voir ta pièce un jour. Votre pièce.
Oui.
Ce serait trop bien.
Oui. Bah, je te tiens au courant. Ouais. Ouais.
Merci beaucoup, Enda.
Merci beaucoup, Léa.
Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Merci à Anna pour son témoignage. Si vous souhaitez participer, toutes les informations sont en description. Je vous donne rendez-vous un dimanche sur deux pour un nouvel épisode.